Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Pour toute plateforme proposant du contenu à destination de spectateurs, lecteurs ou auditeurs, attirer l'attention est un critère fondamental. La clé pour s'assurer de piquer la curiosité réside dans l'art de rédiger un titre. Votre narrateur du jour n'y échappe d'ailleurs pas. Cependant, avec les années, certaines dérives ont émergé, notamment les titres mensongers incitant à s'intéresser à du contenu tout à fait différent de ce qui fut annoncé, le fameux clickbait. En fin d'année 2008, Caitlin Moran est une journaliste aguerrie du journal britannique The Times, bien au fait de ce type de pratique. Pourtant, en naviguant sur un forum, elle tombe sur un post intitulé « Êtes-vous capable de ne pas régurgiter votre petit déjeuner après avoir vu ça ?» Moi, je n'ai pas pu. Ce titre, particulièrement accrocheur, il faut le reconnaître, fonctionne sur Caitlin, dont la curiosité prend le dessus, la faisant cliquer sur le lien qui la redirige vers une vidéo dont la durée indiquée est de 7 minutes 50 secondes. La qualité est médiocre, il est évident qu'un téléphone portable a enregistré ces événements. L'environnement de la vidéo est angoissant. Elle se déroule au beau milieu des bois dans un endroit inconnu. Un homme est agenouillé à quelques mètres de la caméra. Son apparence physique démontre clairement qu'il est contraint de se trouver ici et qu'il a été durement frappé, ses blessures étant relativement récentes. Quelques secondes plus tard, une silhouette inquiétante s'approche de l'individu sans défense. Sur les presque 8 minutes de vidéo, Caitlin n'en regardera qu'une minute 47, un temps qui suffit à confirmer que le titre du post qui l'a incité à cliquer n'est pas mensonger du tout. Une scène insoutenable vient de se dérouler sous ses yeux. Pour comprendre ce qui a tant horrifié la journaliste, nous devons nous rendre en Ukraine. Dnipropetrovsk, voici un nom bien compliqué à prononcer pour nous francophones. Fort heureusement, les choses se sont simplifiées en 2016 lorsque le nom de cette ville de l'est de l'Ukraine a changé pour celui de Dnipro. Cette métropole d'un million d'habitants se situe à 400 km de Kiev, la capitale du pays. Encore fortement marquée par l'architecture soviétique très reconnaissable, elle n'en est pas moins un recoin très touristique de l'Ukraine, hors temps de guerre, bien entendu. D'ailleurs, c'est sous la bannière de l'URSS en 1988 que viennent au monde deux garçons. Il s'agit de Viktor Igorevitch Sayenko, né le 1er mars, et Igor Vladimirovitch Suprunyuk, né le 20 avril de cette même année. Ces deux enfants naissent au sein de familles qu'on ne pourrait qualifier de fortunées, mais suffisamment robustes financièrement pour être rattachés au sommet de la classe moyenne. Dans les deux cas, les parents sont aimants avec leurs enfants. Ces derniers disposent d'une bonne éducation et sont inscrits dans le même établissement scolaire. Igor et Viktor sont amis depuis le jardin d'enfants, ce qui, nécessairement, a rapproché les deux familles qui se côtoient régulièrement depuis plusieurs années désormais. En primaire, le duo d'amis devient un trio avec un troisième larron nommé Alexander Alexandrovitch Hanza. La situation familiale d'Alexander est quelque peu différente de celle d'Igor et Victor. Contrairement à eux, il est issu d'une classe sociale bien plus modeste, résidant au sein des quartiers pauvres de Dnipro. Le garçon n'a jamais réellement connu son père, celui-ci ayant perdu la vie, tandis qu'il n'était qu'un nouveau-né et n'avait donc que sa mère comme point de repère dans la vie. Ensemble, et bien qu'ils soient très jeunes, ils vont faire les 400 coups. Très tôt, ils auront affaire à la justice pour des bêtises de jeunesse, comme ce jour où Igor et Victor se sont amusés à jeter des pierres sur les trains qui passaient. Cet incident, d'ailleurs, conduit les parents d'Igor et Victor à tenter de réduire le temps qu'ils passent ensemble, afin de stopper ces bêtises qui sont suffisamment graves pour amener la police devant leur porte. Mais l'amitié entre ceux-ci est si forte qu'ils ne parviennent pas à les séparer et abandonnent finalement cette idée. En dehors de ces petits accros, l'éducation des trois adolescents reste normale, même si l'école n'est pas la plus grande de leurs passions. Ils préfèrent traîner dehors ou bien parcourir les nombreux sites qu'Internet héberge grâce aux ordinateurs que possèdent Igor et Victor. Une fois au collège, tous trois reçoivent des téléphones portables. Ils s'en servent comme l'équivalent d'un carnet de bord, filmant presque quotidiennement leurs activités. D'ailleurs, s'ils n'apprécient pas l'école, c'est effectivement parce qu'ils trouvent ennuyantes les leçons qui y sont dispensées, mais aussi parce qu'ils ont régulièrement des altercations avec des élèves plus âgés qu'eux. Ceci effraie notamment Igor et Victor qui ont une peur bleue du vide, une phobie qui, selon eux, pourrait être utilisée par ces élèves plus âgés pour les brutaliser. Alors, ils se tournent vers un outil qu'ils maîtrisent et dont l'utilité peut s'avérer redoutable, Internet. Ils consultent de nombreuses pages dans un seul but, surmonter cette peur du vide. La méthode la plus répandue à cette époque sur la toile, c'est combattre le mal par le mal. C'est ainsi, au cours des jours qui ont suivi, que les trois amis se sont rendus régulièrement au 14e étage d'une haute tour abandonnée pour se suspendre à un balcon en fixant le sol. Un procédé aussi dangereux qu'efficace, il semblerait, puisqu'Igor et Victor ont finalement réussi à combattre cette trouille profonde du vide. Au-delà d'être parvenus à écarter cette phobie gênante au point de s'apparenter à une faiblesse, ils ouvrent les yeux sur un point. Ils peuvent devenir plus forts. Grâce à cette confiance remontée à bloc, leur comportement se transforme. Ils souhaitent devenir des dominateurs, commençant ainsi à s'attaquer à d'autres garçons qu'ils considèrent comme plus faibles. Au sein de la bande, l'un d'entre eux se dégage. Il s'agit d'Igor, qui devient le leader du petit groupe. Seulement, il n'a pas l'intention de calmer les ardeurs du clan, entraînant Victor et Alexander vers la délinquance avec principalement des actes de vandalisme. Ceci s'accompagne d'un rapprochement avec l'idéologie nazie qu'Igor semble apprécier. Ils ne se privent d'ailleurs aucunement de marquer leur passage par des tags de croix gammées sur toutes les surfaces possibles. Le chemin que les trois hommes empruntent apparaît les faire glisser profondément vers une violence de plus en plus prononcée, ne se contentant plus uniquement d'actes de vandalisme ou de tags faisant référence au nazisme. Au cours de l'année 2002, tandis que les trois garçons ne sont âgés que de 15 ans, deux incidents vont se produire. Igor, alors qu'il se balade dans les rues de son quartier, croise un jeune garçon à vélo. Malheureusement pour lui, Igor porte un intérêt à son bicycle qu'il décide de lui dérober, non sans le rouer de coups. Il ne garde finalement pas ce vélo qu'il revend à son ami Victor. Peu de temps après, et toujours en 2002, Igor, accompagné d'Alexander, s'en prend à l'un de leurs professeurs pour une raison qui n'est pas connue. Quoi qu'il en soit, l'enseignant se souviendra de sa rencontre avec ses élèves, puisqu'il sera passé à tabac par ces derniers. Le point commun entre l'affaire du vélo et celle du professeur est que dans les deux cas, la police a d'abord été impliquée avant de se retirer. La raison derrière cette inaction des autorités est l'influence du père d'Igor. Sans que l'on ne sache réellement quelles sont les relations qui lui permettent de limiter l'action de la police, il est parvenu, à plusieurs reprises, à éviter des soucis judiciaires à son fils. Suite à ces événements, les parents des trois adolescents tentent à nouveau de les séparer. Alexander est même changé d'établissement. Simplement, les parents ne sont pas réellement rigoureux sur cette règle, ce qui n'entrave aucunement leur amitié, puisqu'ils continuent à se fréquenter dans la rue. Durant l'une de leurs discussions, Alexander annonce à ses deux amis que lui aussi a une phobie. Il ne s'agit pas de la peur du vide, comme ses deux camarades, mais celle du sang. Le raisonnement concernant cette phobie est similaire à celui relatif à la crainte du vide. L'effroi lié au sang est une faiblesse. Or, une faiblesse n'est pas tolérable dans leur croisade pour devenir infaillible. Alors, Igor propose qu'ils mettent en œuvre la méthode similaire utilisée en vue de combattre leur première phobie qui, par-dessus tout, a déjà démontré son efficacité. Alexander doit donc être confronté à une énorme quantité de sang s'il souhaite terrasser sa peur. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas uniquement de s'exposer au vide. Alors, comment faire ? La solution est toute proche, non loin du domicile d'Alexander où une forêt se trouve à proximité avec beaucoup d'animaux errants, et principalement des chiens ainsi que des chats. Une fois capturés, Alexander doit les abattre de façon à ce que ces animaux saignent pour que son esprit ne considère plus la vue du sang comme une crainte. Ce rituel se répète de nombreuses fois. Nous parlons là de la mise à mort brutale de dizaines de pauvres chiens et chats. Seulement, Alexander finit bel et bien par s'habituer à l'hémoglobine. Et le trio ne se stoppe pas pour autant. Une réalité terrible est en train de se dessiner. Du plaisir est pris par les trois jeunes hommes lorsqu'ils retirent la vie à un être vivant. Cette sensation unique qu'ils ressentent à chaque exécution, bientôt, ne leur suffit plus. Une seconde phase dans l'horreur est enclenchée. Désormais, avant de retirer la vie, ils torturent, de différentes façons, plus ou moins cruelles, mais cela demeure un calvaire pour les pauvres animaux victimes de ces êtres basculant complètement vers le côté le plus sombre de l'âme humaine. S'ils martyrisent ces animaux, c'est à cause de leur croyance, selon laquelle réaliser de tels actes les rendrait plus forts encore à l'entame de leur vie adulte. Une ineptie sans commune mesure. Igor, quant à lui, utilise le sang des bêtes à qui ils ont injustement retiré la vie pour peindre des croix gammées sur les arbres de la forêt autour du lieu de l'exécution. Tout ceci est enregistré, documenté et archivé grâce au téléphone portable des trois garçons. Ils posent fièrement devant les animaux abattus comme s'ils étaient des trophées, de véritables images d'horreur. Comme ce jour où, ensemble, ils ont fabriqué une croix en bois avant de clouer chaque patte d'un pauvre petit chaton blanc dessus. Puis l'ont lentement achevé avec des pistolets dont les munitions étaient des balles en caoutchouc. Le plus horrible est certainement de pouvoir les observer sur leur vidéo, rigolant de leur acte abject. Voici à quel point l'esprit de ces trois personnes inhumaines se corrompt peu à peu sans, pourtant, qu'aucun de leurs parents ne s'en rende compte, ou même ne soit informé des activités macabres qui leur servent de passion. Mais nous ne sommes là qu'aux prémices d'une histoire dont les faits sordides vont secouer tout un pays. En 2005, Igor, Victor et Alexander ne sont âgés que de 17 ans. Mais une nouvelle fois, prennent pour cible des victimes plus jeunes et plus faibles qu'eux. Deux garçons de 15 ans. Cette agression est plus notable que les précédentes dans la mesure où leur acharnement a causé de graves lésions aux adolescents. De nombreuses fractures, des commotions cérébrales et des marques qui resteront à vie sur les visages des jeunes victimes. Une nouvelle fois, la police est impliquée puisque les parents des deux garçons de 15 ans les contactent afin de porter plainte. Seulement, l'influence du père d'Igor est si grande qu'à nouveau, l'affaire est étouffée. En guise de sanction, les trois amis sont uniquement réprimandés par leurs parents, ce qui apparaît très léger compte tenu de leurs agissements. À la fin du lycée, les trois amis vont connaître des fortunes diverses. Victor décroche un emploi à temps partiel en tant qu'agent de sécurité. Alexander, lui, se retrouve au chômage, tout comme Igor. Simplement ce dernier est récompensé pour avoir décroché son diplôme de fin d'études. Il se voit offrir une petite voiture verte de la marque Daewoo de la part de ses parents. Cependant, Igor n'est pas pressé de se trouver un emploi. Un problème, puisque son père exerce une certaine pression sur lui à ce sujet. La solution est toute trouvée pour Igor, qui explique à son paternel qu'il est devenu chauffeur de taxi grâce au véhicule offert. C'est ce qu'il lui fait croire en tout cas, puisque la réalité est tout autre. Il passe énormément de temps avec ses deux amis à regarder, durant des journées entières, des vidéos exposant des meurtres ou affichant de la torture. C'est une véritable obsession qui grandit chez les trois jeunes hommes. Cela ne dure qu'un temps. Observer ne leur suffit plus. Il leur faut de l'action. D'abord, ils mettent en place un stratagème pour dépouiller des personnes. Ils utilisent la voiture d'Igor comme un appât en se faisant passer pour un taxi. Puis, au lieu de conduire leurs futures victimes à leur destination, ils les emmènent dans un endroit tranquille en vue de les détrousser. Portefeuille, bijoux, téléphone portable, tous les objets de valeur sont subtilisés. Notez qu'Alexander, au chômage et éprouvant des difficultés financières, participait à ces larcins pour récolter un butin lui étant utile. En revanche, ni Victor ni Igor n'avaient besoin d'argent. L'intérêt pour eux réside dans les sensations qu'apporte le vol de ces personnes sans défense. Le degré de violence des agressions augmente sensiblement à chaque nouveau vol, si bien qu'Alexander se retire de cette activité à l'entame du mois de mars 2007. Il craint que tôt ou tard, Igor ou Victor ne finissent par tuer une personne, ce qui pourrait conduire les trois jeunes hommes à de graves problèmes avec la justice, ne pouvant pas être sauvés éternellement par le père de leur ami. Quelques temps plus tard, durant le mois de juin, Igor et Victor continuent de commettre leur larcin, à la différence cette fois-ci qu'ils détroussent un couple en plein jour, tandis qu'habituellement, ils n'agissent que de nuit pour ne pas être reconnus. Cette erreur les inquiète, mais elle représente aussi une opportunité, celle de totalement basculer du côté le plus nauséabond de l'humain en ôtant la vie. Voici les deux premiers meurtres commis par Igor et Victor, sans qu'aucune information relative à la méthode empruntée ne soit connue cependant. En revanche, il y a une certitude, ils ont aimé tuer, au point que cela a réveillé chez eux une certaine excitation. Le 25 juin 2007, la soirée est douce du côté de Dnipro. Ekaterina Ilchenko, une jeune femme de 33 ans, enseignante à l'université du coin, prépare le dîner pour sa meilleure amie qui lui rend visite, ainsi que sa mère avec qui elle vit. Sur les coups de 22h, il est temps pour l'amie d'Ekaterina de s'en aller. Cette dernière lui propose de la raccompagner tandis que sa mère, trop fatiguée pour sortir, décide d'aller se coucher. Les deux jeunes femmes s'en vont donc profiter de la tranquillité de la nuit. À 4h30 du matin, angoissée, la mère d'Ekaterina se réveille pour vérifier que sa fille est bien rentrée de sa promenade. Elle se rend dans sa chambre mais constate que le lit est intact. Ekaterina n'a pas passé la nuit ici. À 5h du matin, la mère part à la recherche de sa fille. Alors qu'elle parcourt les alentours, elle distingue un attroupement de plusieurs personnes dont manifestement la curiosité les a fait se rassembler. La mère s'avance pour comprendre. Il s'agit d'un cadavre gisant au milieu d'une mare de sang. La femme s'écroule en criant d'appeler la police. Sa fille vient d'être tuée. C'est un véritable carnage. Il est presque impossible de reconnaître Ekaterina. Son visage est fracturé en 1000 morceaux. Ce meurtre sauvage, pourtant, n'est pas le seul de cette terrible nuit du 25 juin. Une seconde dépouille est découverte plus tard dans la matinée par des promeneurs. Il s'agit de Roman Tatarevitch, âgé de 35 ans. L'homme, après une soirée alcoolisée, avait fini par s'assoupir sur un banc dans un parc. Quelques heures plus tard, il est retrouvé sans visage, tant les agresseurs se sont acharnés sur lui à l'aide d'un objet contondant. Cette nuit-là, il y aurait pu y avoir un troisième meurtre si Victor Pertsev, âgé de 58 ans, n'avait pas miraculeusement survécu à son assaut. Il a bien été frappé alors qu'il rentrait chez lui, voyant de près la mort. Mais une voisine, apercevant la scène, s'est mise à hurler, faisant ainsi fuir les agresseurs. Bien sûr, cette série de meurtres est commise par Igor et Victor, toujours plus assoiffés par le sang. Ils deviennent totalement incontrôlables, développant une réelle addiction à la sensation procurée par le fait d'ôter une vie. C'est ainsi que sur une période d'environ 2 semaines, s'étalant du 25 juin au 6 juillet 2007, 10 meurtres sont commis par le duo. Ils s'attaquent à n'importe quelle personne croisant leur chemin. Hommes, femmes, jeunes, âgés, étudiants, militaires, ils ne font aucune distinction dans leur folie. Il y a bien une explication derrière cette non-sélection de leurs victimes qui est liée à leur mode opératoire. D'une part, ils ont l'avantage du nombre, attaquant des individus isolés. D'autre part, soit ils rusent en se faisant passer pour un taxi, soit ils se servent de l'effet de surprise, lançant un assaut par derrière. Ainsi, de cette façon, Igor et Victor peuvent s'en prendre facilement à tout type de personnes. Notez enfin que leur arme de prédilection est le marteau, bien que tout objet contondant fera l'affaire dès lors qu'il permet de servir de masse. Car oui, s'il y a bien une étape absolument nécessaire dans leur sordide mode opératoire, c'est de briser littéralement le crâne de ceux qu'ils attaquent. Ils assènent jusqu'à 15 ou 20 coups de marteau, ouvrant la chair, broyant les os et faisant couler le sang. Un point surprenant est que, malgré des similitudes évidentes entre les différents meurtres, notamment la cause de la mort de chacune des victimes,
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nombre de décès grimpant en flèche sur une courte période et dans un secteur géographique précis, il ne semble pas que les autorités établissent un lien entre eux. Ce qui pose nécessairement question sur la compétence de la police locale. Et justement, c'est un aspect dont on va reparler. Nous voici le 7 juillet 2007. Andrei Sidiouk et Vadim Liakov, tous deux âgés de 14 ans, profitent de ce samedi pour aller pêcher et ramener du poisson frais à leur mère. C'est une routine qu'ils ont, un hobby qu'ils partagent habituellement à trois, mais leur ami commun n'a pas été autorisé à sortir ce jour-là. Effectivement, il est très tôt, si bien qu'il fait encore nuit. Cela reste cependant un excellent moment pour la pêche. Mais la mère de leur ami n'accepte pas qu'il les accompagne, étant angoissée à l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose. C'est donc sans lui qu'ils se rendent à vélo, équipés de leur canne à pêche, à un point d'eau, espérant ramener de belles prises. Sur la route de campagne qui les mène à la rivière Samara, leur destination, un véhicule de couleur vert les dépasse, puis s'arrête quelques mètres devant eux. Deux hommes en descendent, se tenant, à présent, debout au milieu de la route. Andrei et Vadim continuent d'avancer jusqu'à eux, sans savoir qu'il s'agit des deux psychopathes qui sèment la terreur dans la région depuis plusieurs jours. Le regard des quatre garçons se croise, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Quand soudainement, les deux adolescents s'effondrent. Ils viennent d'être frappés avec de lourdes barres métalliques. Andrei a perdu connaissance, mais ce n'est pas le cas de Vadim, qui se relève tant bien que mal, en courant le plus vite possible dans la direction opposée pour sauver sa vie. Tandis qu'il est en pleine course, effréné, il entend le bruit du moteur de la voiture qui s'enclenche, et comprend dès lors qu'il n'a aucune chance de s'échapper en restant sur la route. Il y a urgence, la voiture accélère, il doit trouver une solution. Par chance, il connaît très bien les lieux pour y venir régulièrement. Alors, il sort de la route et se dirige dans la forêt, où il connaît un endroit dans lequel il peut se cacher. Quelques dizaines de secondes après qu'il se soit dissimulé dans les bois, il entend le moteur de la voiture de ses agresseurs. Les portières claquent, puis des bruits de pas écrasant des brindilles et des feuilles retentissent. Vadim, blessé et apeuré, tente de retenir sa respiration pour ne plus faire aucun bruit. Une minute ou deux s'écoulent avant que la voiture ne redémarre, le garçon patiente craignant un leurre de la part de ses agresseurs. Mais il semble bien qu'il soit enfin parti pour de bon. Alors, il se précipite vers son ami Andrei, allongé au milieu de son sang. Comme pour chaque agression, Victor et Igor n'ont pas épargné le jeune homme dont le visage n'est pas reconnaissable. Pourtant, il est vivant. Vadim court chercher de l'aide sur une route plus fréquentée et en obtient lorsqu'un homme l'aperçoit complètement taché de sang. Tous deux sont conduits à l'hôpital. Seulement, Andrei n'a pas survécu lors du transport, quittant ce monde prématurément. Alors que l'on pourrait penser que le calvaire de Vadim a pris fin, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'à l'hôpital, la police débarque afin de faire le clair sur cette histoire. Les enquêteurs ne croient pas l'adolescent lorsqu'il leur expose les faits. Eux pensent que c'est lui l'auteur du crime, d'ailleurs sans réelle matière permettant d'étayer une telle hypothèse. Vadim est donc arrêté pour le meurtre de son ami Andrei, puis emmené immédiatement au poste afin de subir un interrogatoire. Le trajet vers le commissariat donne un avant-goût de ce qui attend le jeune homme. Le garçon s'évanouit dans la voiture de police. Il est rapidement ramené à lui lorsque l'un des policiers se met à le frapper fortement. Il endure le même traitement une fois au poste, les policiers souhaitant à tout prix le faire avouer. Mais Vadim ne craque pas, maintenant sa version selon laquelle une voiture de couleur verte avec deux occupants, dont il donne la description physique, s'est arrêtée après quoi l'agression a commencé. La mère de Vadim, qui n'avait pas été contactée jusqu'à présent, finit par l'être. Elle remarque que son fils a été battu et menace aussitôt de rendre publique toute cette histoire. Embarrassés, les agents de police finissent par relâcher l'adolescent, après avoir tout de même noté les caractéristiques physiques que Vadim ne cessait de leur indiquer. L'adolescent, traumatisé, peut enfin rejoindre sa famille. Mais il est anxieux, puisqu'il est un témoin direct, et craint donc que les tueurs ne reviennent pour lui. L'opiniâtreté du garçon aura eu deux bénéfices. Le premier, il a évité la prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Le second, il a forcé la police à se pencher de plus près sur cette affaire. Désormais forcé de lancer de réelles investigations et non plus choisir la solution de facilité en accusant le pauvre Vadim, la police s'intéresse aux divers meurtres de la région. Constatant, en toute logique, qu'un lien pouvait être établi entre la mort d'Andrei ainsi que plusieurs autres personnes. Des croquis, fidèles à la description donnée par Vadim, sont réalisés, transmis dans la foulée à une équipe d'enquêteurs de Kiev. Un autre point important, malgré des attaques à la fréquence élevée, la police ne pense pas qu'avertir la population soit pertinent. Les autorités estiment que cela engendrerait un vent de panique nocif pour l'enquête, mais aussi informerait les meurtriers qu'ils sont désormais dans leur collimateur, ce qui pourrait les rendre plus minutieux dorénavant. Cela n'empêche pas les fuites pour autant, la rumeur se répand comme une traînée de poudre, il y a un tueur en série qui sévit à Dnipro. Celui-ci est particulièrement sauvage, s'attaquant à n'importe qui, bien que la plupart des victimes soient des personnes isolées en état de faiblesse comme des personnes âgées, alcoolisées ou bien encore des adolescents. Mais s'il y a bien une personne qui ne craint pas la mort, c'est Sergueï Yatsenko. Cet homme de 48 ans a fait face à la faucheuse déjà deux fois et dans les deux cas, il s'en est sorti. Première fois, en 1990, alors qu'il est employé au sein d'une ferme, il conduit un tracteur dont il perd le contrôle. L'engin se dirigeant tout droit en direction d'une rivière. Sergueï souhaite sauver la machine qui coûte extrêmement cher, mais il n'y parvient pas, restant bloqué dans la cabine et coulant avec le tracteur. Tandis qu'il est sorti de l'eau, son cœur s'est arrêté de battre, mais les sauveteurs dans un premier temps, puis les médecins dans un second, sont parvenus à le faire revenir à la vie. Un véritable miracle. La seconde fois où Sergueï a glissé entre les doigts de la mort, c'est au moment où l'on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. Une étape terrible qui une nouvelle fois met en jeu sa vie. Pourtant, il va se battre jusqu'au bout pour sa femme Lyudmila et ses deux garçons devenus des jeunes hommes à présent. Sergueï subit une opération cruciale au niveau de la gorge qui est un succès et en 2007, il se remet peu à peu, si bien qu'au cours du mois de juillet, il est à nouveau autonome ayant simplement un peu de mal à recouvrer sa voix. C'est ainsi que le 12 juillet, Sergueï prévient sa femme Lyudmila qu'il va faire le plein de sa moto avant de se rendre chez l'un de ses fils, comme il le fait régulièrement. Alors que le crépuscule pointe le bout de son nez, Lyudmila n'a toujours aucune nouvelle de son mari qui n'est pas rentré. Elle essaye de le joindre sur son téléphone portable, mais il n'y a pas de réponse. Elle contacte son fils, chez qui Sergueï devait se rendre, mais il lui explique que son père n'est jamais venu. La femme s'inquiète, ce n'est pas du tout un comportement classique de la part de son mari. Elle craint qu'il ait été victime d'un accident de moto durant son trajet. Malheureusement, la police n'enclenchera des recherches qu'à partir de 72 heures de disparition. Lyudmila ne peut pas rester inactive, partant, avec quelques membres de la famille, sur la piste de Sergueï. En dépit des efforts colossaux fournis pour retrouver l'époux disparu, il n'y a aucun indice à se mettre sous la dent. Mais quelques jours plus tard, la moto de Sergueï est repérée proche d'une zone boisée par un homme. Immédiatement, l'espoir renaît. Toute la famille se dirige vers cet endroit qui pourrait leur en apprendre plus. Cela ira même au-delà de leurs espérances, puisqu'ils retrouvent Sergueï. Seulement, il s'agit de son cadavre. S'ils sont capables de l'identifier, c'est uniquement grâce à la tenue qu'il porte, étant celle dont il était revêtu lorsqu'il a quitté la maison familiale. Sa dépouille est dans un état déplorable. Son crâne et son visage ont été martelés à plus de 10 reprises. Mais surtout, ses yeux ont été crevés à l'aide d'un tournevis. Des trous profonds dans la chair parsèment son abdomen. C'est un véritable massacre qui choque toute la famille. Mais Sergueï ne vous est pas inconnu non plus, puisqu'il est l'homme présent sur la vidéo de 8 minutes que la journaliste Caitlin Moran a regardée durant 1 minute 47 seulement, tant l'horreur était à son comble. Ces bourreaux étant, évidemment, les deux fous qui sévissent dans la région depuis plusieurs semaines désormais, Igor et Victor. Le meurtre immonde de Sergueï dévoile un nouvel aspect des tueurs. Ces derniers montent graduellement dans l'horreur. D'abord, il fallait s'habituer à la vue du sang avec la torture sur les animaux. Puis, les attaques sur des personnes ont commencé, avant que des meurtres ne soient commis. À présent, il y a une nouvelle étape, avec la mutilation des cadavres, comme si Igor et Victor prenaient du plaisir à jouer de manière écœurante avec le corps humain. D'ailleurs, nous atteindrons le summum de l'horreur avec le meurtre de Valeria Lobachenko le 13 juillet 2007, enceinte au moment où les deux psychopathes s'en prennent à elle, toujours avec le même mode opératoire. Simplement, Igor et Victor se sont amusés à retirer le fœtus de l'enfant qu'elle portait, laissant derrière eux l'un de leurs plus choquants lieux du crime. La folie meurtrière des deux jeunes hommes n'est donc pas prête de s'estomper. Au contraire, elle semble agir comme une drogue pour Igor et Victor, dont le comportement a totalement basculé. La police maintient le cap dans sa stratégie de ne rien divulguer au public, qui se nourrit uniquement de rumeurs selon lesquelles il n'y aurait pas un, mais deux tueurs en série agissant ensemble. Une véritable psychose s'installe, à juste titre, puisqu'entre le 14 et le 16 juillet, trois nouveaux cadavres totalement défigurés et mutilés sont découverts dans les bois de Dnipro. Les corps des victimes sont de plus en plus abîmés par les deux psychopathes de la région. Cette tension palpable, le nombre de funérailles qui grimpent en flèche et le traumatisme que son fils a connu sont les raisons qui poussent la mère de Vadim Lyakov à l'empêcher de se rendre aux obsèques de son ami Andrei, massacré par Igor et Victor. Cette décision est lourde de conséquences, puisque si Vadim ne se rend pas aux funérailles de son ami, ses agresseurs y sont bien présents. Igor et Victor, sans gêne, se présentent aux obsèques. Il n'y a aucune volonté de leur part de rendre un dernier hommage au pauvre garçon qu'ils ont tué. Au contraire, ils sont là pour prendre des selfies devant la pierre tombale dans l'irrespect le plus complet. Sur certains clichés, il est possible de les voir réaliser des gestes obscènes à l'endroit où le petit Andrei repose pour l'éternité. Si Vadim s'était rendu à cet événement, il aurait reconnu les deux tueurs et l'affaire aurait été bouclée. Au lieu de ça, il souille la mémoire d'un mort sans que personne ne les suspecte. En parallèle, les autorités s'activent pour que les meurtres cessent. Environ 2000 effectifs sont impliqués dans cette enquête qui devient une véritable chasse à l'homme. Malgré de nombreux témoignages, puisque plusieurs personnes ont survécu aux attaques et des portraits robots, il n'y a pas réellement de piste. Pourtant, il y a un élément exploitable. Effectivement, les meurtriers détroussent toutes leurs victimes. Cela signifie que les biens dérobés, qui sont des objets de valeur, sont certainement revendus. S'ils le sont, les auteurs de ces tueries se sont assurément présentés chez des prêteurs sur gage moyen le plus simple afin d'écouler la marchandise. Par conséquent, les enquêteurs distribuent aux prêteurs sur gages locaux des portraits robots des hommes recherchés, ainsi que la liste des objets volés. Si un individu ressemblant au croquis met en gage un objet de cette liste, il y a de fortes chances pour qu'il soit l'un des meurtriers, ou alors une personne ayant été récemment en contact avec eux. Ainsi, une opportunité de remonter jusqu'au criminel pourrait s'offrir à la police. Le 23 juillet 2007, deux hommes se présentent chez un prêteur sur gage avec un téléphone portable qu'ils souhaitent vendre. 20 dollars américains leur sont proposés contre l'appareil à condition qu'il soit en état de fonctionner. L'employé de la boutique allume donc ce téléphone, souhaitant s'assurer que tout est en ordre. Ce qu'il ignore, c'est que les deux hommes en face de lui sont les tueurs de la région, Igor et Victor. Il ne sait pas non plus que le démarrage du téléphone vient de faire chavirer toute l'histoire. La police surveille les mobiles des victimes. Dans le cas où un signal serait à nouveau émis, ils sont prêts à se rendre à l'endroit où le téléphone se met à borner. Ce qui est le cas, le téléphone se met à borner dans une zone où se situe un prêteur sur gage. Aussitôt, de nombreuses patrouilles foncent vers la boutique où se trouvent Igor et Victor. Les voici en bien mauvaise posture, détenant le téléphone portable de l'une des victimes. Les enquêteurs ne perdent pas de temps en perquisitionnant les domiciles d'Igor, Victor et Alexander. Chez les deux premiers, c'est une avalanche de preuves. Une grande quantité d'habits sont tachés de sang. Il y a d'innombrables objets appartenant aux victimes. Et surtout, chez Igor, il y a l'une des armes du crime, un marteau aux manches jaunes entièrement ensanglanté. Toujours chez Igor, un exemplaire du fameux livre d'Adolf Hitler Mein Kampf est retrouvé à côté d'articles de presse relatant les meurtres. S'il y avait une once de doute, désormais il n'y en a plus aucune. Les trois jeunes hommes sont rapidement mis en état d'arrestation, conduits au poste de police et interrogés. Face aux preuves accablantes, ils ne résistent pas beaucoup et avouent les crimes. L'une des premières questions des policiers concerne le nombre de victimes, ce à quoi Igor et Victor répondent qu'ils ne tenaient pas les comptes, mais estiment à 19 au moins le nombre de personnes à qui ils avaient ôté la vie. En réalité, sur une période de 4 semaines seulement, ils ont commis 21 meurtres. Bien sûr, dans la foulée, les enquêteurs souhaitent connaître leur motivation. Victor explique dans un premier temps qu'il faisait ça pour l'argent, avant, finalement, tout comme Igor, de reconnaître qu'il s'agissait d'une pulsion viscérale. Ils aimaient tout simplement tuer des êtres vivants, humains ou animaux. C'est ainsi qu'Igor et Victor sont inculpés pour actes de cruauté envers les animaux, vol à main armée et 21 meurtres. Alexander, quant à lui, n'a pas participé au meurtre, mais les policiers sont en capacité de l'inculper pour 2 vols à main armée. Voici que débute leur procès au cours du mois de juin 2008. Le jugement de cette affaire ne sera pas sans remous, notamment parce que les parents d'Igor et Victor possèdent une certaine influence. Le père d'Igor a été le chauffeur personnel d'un président ukrainien, ce qui lui permet de bénéficier d'un soutien de poids, et ce qui explique aussi pourquoi il a pu sauver la mise à son fils à de si nombreuses reprises. Les parents vont tout mettre en œuvre afin de faire reconnaître leur fils comme innocent, allant même jusqu'à expliquer que les aveux ont été obtenus par la force de la part de la police. Ils vont tenter de faire jouer leur relation, mais un élément empêche toute intervention pour sauver les enfants terribles. Cet élément se trouve dans les téléphones d'Igor et Victor. Il s'agit de la vidéo de 8 minutes montrant l'exécution froide et barbare de Sergueï Yazenko. Aucun homme politique n'interviendra dans cette affaire avec un tel élément à charge. Les familles d'Igor et Victor vont jusqu'à licencier les avocats de leurs enfants pour les défendre eux-mêmes. Leur stratégie est de tout nier en bloc, y compris l'évidence, avec ses nombreuses vidéos et photos où l'on voit clairement le visage des deux jeunes hommes. Ils expliquent au juge que la vidéo est truquée et qu'il est impossible, par-dessus le marché, de reconnaître Igor ou Victor. Une justification difficile à croire pour le magistrat, puisque sur la vidéo du meurtre de Sergueï, il est possible non seulement de voir Igor et Victor, mais en plus de les entendre et de faire corroborer leur voix. Des experts vont tout de même étudier la vidéo et indiquer que si elle avait dû être truquée, il aurait fallu un an pour ça, ce qui est impossible en l'occurrence. les métadonnées de ce fichier indiquant la date du 12 juillet 2007. Après avoir visionné l'exécution violente de Sergueï, le juge ordonne une expertise psychiatrique des accusés. Le fait de les voir rigoler à tue-tête à côté d'un cadavre, réaliser des signes nazis, tout en s'amusant à mutiler la dépouille du pauvre homme, inquiète le juge. Et les résultats sont formels. Ils sont bien conscients de leurs actes. Ce sont tout bonnement des personnes cruelles. Au cours du procès, les preuves matérielles et médico-légales avec l'ADN s'accumulent. Il est désormais évident qu'Igor et Victor sont les meurtriers. Le 11 février 2009, il est temps pour le juge, au regard des éléments de cette affaire, de faire connaître la sentence. Igor Suprunyuk est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation dont il était inculpé, et notamment 21 meurtres. Viktor Sayenko, quant à lui, est reconnu coupable de 18 meurtres. Tous deux sont donc condamnés à une peine d'emprisonnement à vie, qui sera confirmée quelques années plus tard en appel. Alexander Hanza est reconnu coupable des deux vols à main armée et condamné à purger une peine d'emprisonnement de 9 années. Les parents des accusés ne seront jamais inquiétés par la justice, bien qu'il y ait de forts doutes quant à une éventuelle complicité. Comment, alors qu'Igor et Victor vivaient sous leur toit, n'auraient-ils pu ne pas se douter de leurs macabres activités ? D'autant plus lorsque leurs chambres respectives étaient remplies de vêtements tachés de sang et d'objets ne leur appartenant pas. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une bien triste affaire qui aurait pu certainement être résolue plus rapidement et limiter le nombre de victimes.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.